Vous écoutez France Culture.
Affinité élective, une émission de Francesca Isidori. La publication, en 1967, de Tombeau pour 500 000 soldats attire immédiatement l'attention sur un jeune écrivain de 27 ans qui s'impose d'emblée comme l'une des voix les plus puissantes et novatrices de la littérature française. Au moment de la composition de ce livre, épopée, geste, poème narratif guerrier, magique, religieux, qui contient les prémices d'une poétique totalement inédite, il écrit dans une lettre « La lecture en sera difficile, les bonnes âmes vont crier au scandale ». Scandale qui accompagnera aussi la publication en 1970 de Eden, 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 accusé de pornographie et interdit par la censure, malgré la mobilisation et l'appui des personnalités les plus célèbres du monde littéraire et intellectuel de l'époque. Avec Prostitution, le livre, Progéniture, il creuse toujours davantage et travaille le relief de la langue. Il intervient physiquement en elle. Modifications graphiques, mots disloqués, rongés, accélération et distension du rythme, jusqu'à ce que le mot et la matière ne soient qu'une seule et même chose. La publication en 2005 de Carnet de bord, journal, brouillon, carnet d'esquisses et de travail des années 62-69, nous faisait entrer dans l'intimité de son œuvre, de son élaboration solitaire et farouchement déterminée. Et Coma, paru en 2006, était le compte-rendu bouleversant d'une traversée au bord de la mort lorsque l'opération risquée de l'écriture est conduite jusqu'à l'expérience limite du corps. Une écriture autobiographique qui se poursuit aujourd'hui avec formation, récit d'apprentissage, récit d'enfance, de cette enfance dont il disait en 1963 dans les pages de son journal qu'elle lui remontait à la gorge à chaque fois qu'il voulait écrire. Des lumières s'allument dans mon dos, des mains se posent sur mes épaules, des souffles sur ma nuque, enfance, brouillard doré sur ma conscience, haute page de ma conscience. Les affinités électives de Pierre Guyotat. Bonsoir Pierre Guyotat. On écoute à l'instant un extrait du motet de Heinrich Schütz, Philimi et Absalon, interprété par l'ensemble Pro Canzione Antiqua, dirigé par Edgar Flitt. Et c'est par cette musique que vous avez souhaité commencer cet entretien.
Oui, par cette musique, pas forcément par cette interprétation, qui est un peu lente, je trouve, et qui est moins dramatique que celle que j'aime bien, enfin. Parce que c'est une musique qui est tellement magnifique d'abord, très riche, très... le thème évidemment, c'est la plainte, je crois, de David, qui est David ou Salomon, je sais pas, qui est le père donc d'Absalon, Absalon qui est le fils rebelle, je ne sais plus pour quelle raison, il fuit la demeure de son père, et donc il s'accroche les cheveux. Il est à cheval, il s'accroche les cheveux à des branches dans une forêt. Et puis il est, je crois, décapité de cette façon, il me semble. J'ai tellement rêvé sur cette image-là quand j'étais tout petit, du reste. Il y avait une, dans les, la Bible pour les enfants que nous lisait et que nous montrait ma mère, déjà sous l'occupation. J'avais à peu près 2 ans, déjà, 1 an et demi. Cette image-là était une des plus fortes, bien sûr.
Et ce qui vous attirait dans ce personnage d'Absalom, est-ce que c'était l'idée de la fuite ? Est-ce que c'était...
Mais je crois que c'était les cheveux.
Les cheveux, la chevelure.
Les cheveux, oui. Tout ce qui est cheveux est formidable dans la Bible. Il y a tellement de choses. Même dans le... Y compris dans l'Évangile, enfin, dans le Nouveau Testament. Mais je pense que... Je ne sais pas, c'était peut-être un pressentiment de... Peut-être de
du fils rebelle.
Ce que aussi. J'allais, oui, ce que j'allais vivre moi-même, parce que j'ai vécu cette sorte de séparation avec mon père à partir de la 16e année, d'une façon très extrêmement douloureuse, jusqu'à sa mort, du reste, quand j'avais 30, 31 ans. Donc, je ne sais pas, peut-être que cette musique est... ce thème, en tout cas, cette image, c'était d'abord une image. Une image d'Absalom avec les yeux exorbités, arrêtés dans sa fuite par les branches des arbres. Du reste, c'était très curieux pour moi, parce qu'on nous disait que on entendait ma mère nous dire que, évidemment, la Judée, l'actuel Israël, était un pays relativement désertique. Alors, je ne comprenais pas pourquoi il y avait ces arbres extrêmement épais, enfin, cette forêt, tout d'un coup,
au Absalom. Point qu'on pouvait...
Oui, alors je me disais, mais peut-être qu'il est. Peut-être qu'il, parce qu'on savait qu'il y avait des cèdres au Liban, mais les cèdres, les branches ne sont pas aussi basses. Je me disais, peut-être qu'il est allé déjà très loin, en dehors de Jérusalem. Oui, c'est Jérusalem. Oui.
C'était une des nombreuses énigmes.
Une des nombreuses énigmes.
De votre enfance.
Qui reste toujours des énigmes, de toute façon.
J'aimerais que vous regardiez maintenant une autre image.
Et aussi parce que. Oui. C'est une musique magnifique d'un musicien magnifique, bien sûr, de la première moitié du. Enfin, qui a vécu très longtemps, 80 ans, à cette époque-là. C'était important, car c'était l'horrible guerre de 30 ans qui a dévasté l'Allemagne, qui explique bien des choses dans la suite de l'histoire de l'Allemagne, du reste, je pense. Et c'est pour moi une musique historique, vraiment. C'est une musique qui a un son historique. La petitesse, déjà, des effectifs, et la plainte aussi. On pense que cette musique était faite pour être jouée dans des petits lieux protégés, alors que à l'extérieur des murs même, c'était l'horreur, c'était la torture, les viols, tout, et que un petit groupe de gens chantaient, priaient dans un lieu clos, soit un château, soit une chapelle encore debout. Oui, cette musique me touche beaucoup à cause de ça aussi. Parce que c'est une période importante de l'histoire de l'Europe. Et dramatique, horrible. Et c'est les images de Jacques Callot. Superbe. Donc cette musique est vraiment pour moi liée à l'histoire. Il y en a peu qui le soient autant, je trouve.
Pierre Guyotat, j'aimerais que vous regardiez cette photo. Voilà. Qui est sous vos yeux.
Oui.
Et que vous nous décriviez ce qu'on voit dans cette photo. Oui. Et surtout que vous nous parliez de cet enfant.
C'est une photo, c'est l'année où je quitte cette petite école qui a été tellement importante pour moi, l'école Notre-Dame de Joubert, donc, dans la montagne. C'est un endroit très, très austère, très rude, magnifique, mais très rude.
Vous avez 12 ans.
Surtout l'hiver. Là, donc j'ai 12 ans. C'est en 1952. Et je suis revenu sans doute pendant les vacances. Il y a une espèce de rassemblement d'élèves avec quelques prêtres comme ça, de l'école, comme ça, pour une journée. Comme ça se faisait assez souvent, tous les ans. On fait un pique-nique, il y a une messe, il y a des vêpres, enfin toutes sortes de choses heureuses. Mais il y a des pique-niques, des jeux, comme ça. Donc c'est la première fois que je reviens. J'ai mon frère Régis à côté. Au bout du groupe, sur son vélo. Donc lui qui est à l'école déjà, qui va encore, qui a encore 2 ans à faire dans cette école. Et moi, je ressens certainement quelque chose une certaine tristesse à quitter ce lieu. Ce lieu qui était pourtant très, 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 très dur, quand même, très sévère. Sévère au sens des formes et des objets, du confort, hein, parce que c'était une éducation très intelligente et assez tendre quand même malgré tout. Enfin, moi, je l'ai vu comme tel, disons. Et je ne sais pas, ce qu'on peut voir dans cette photo, c'est le détail de cette photo de groupe, justement. Je pense que c'est dans l'après-midi, avec un prêtre que je connaissais à peine, qui était là avec son grand béret, qui était là comme ça, qui était un permissionnaire, je crois, qui était là un peu pour se reposer de ses aventures asiatiques ou océaniennes, je ne sais pas très bien. Mais il était là comme ça pour être avec nous. Quoi, oui. Alors, j'ai quelques-uns de mes amis de l'époque, que j'ai perdu de vue, bien sûr, depuis. On est bien fragile quand même. On est très fragile vis-à-vis de ce qui nous attend.
Dans Explication, le livre d'entretien avec oui. Marianne Alphand, paru en 2000 aux éditions oui. Léo Cher, oui. Vous dites « C'est terrible de constater que tout ce qu'on peut faire de plus radical, la structure en est déjà dans ce qui s'est imprimé dans ton cerveau d'enfant. » Alors, c'est un peu en ayant cette phrase présente à l'esprit, mm-hmm. entre autres, que j'ai lu « Formation », votre oui. dernier oui. ouvrage, oui. Récit de votre enfance. Ce récit, dites-vous, raconte la formation sensorielle, affective, intellectuelle et métaphysique d'un enfant né au tout début de la Deuxième Guerre mondiale, en France, dans un village du Sud-Est, dans une famille ancienne, catholique et sans fortune.
Ancienne en italique.
Ancienne en italique, oui.
Parce que toutes les familles sont anciennes.
Et ce village du Sud-Est, c'est Bourg-en-Jental.
Bourg-en-Jental, oui.
Dans la Haute-Loire.
Non, dans le sud de la Loire.
Dans le sud de la Loire. Et vous y êtes né en janvier 1940.
Oui, le 9 janvier, oui.
Dans cette famille donc oui. ancienne, en italique, catholique.
Ancienne dans le sens qu'il y a des archives depuis pas mal de temps. Mais sinon, c'est pas plus ancien que les...
Et votre père était médecin de campagne.
Oui. Oui.
Grand accoucheur.
Oui.
D'accouchement héroïque.
Devant l'Éternel. Oui.
et souvent, vous avez accompagné votre père dans ses tournées par tous les temps. Parfois, vous attendiez dans la voiture. Parfois, vous étiez invité à l'intérieur des fermes.
Oui, c'est rarement. Enfin, parce que mon père ne le voulait pas. Non, mais ben nous l'accompagnons très, très souvent, en fait, extrêmement souvent.
Et on se rend compte...
Parce qu'il le voulait. Oui.
Et on se rend compte, en lisant le livre, que c'était les moments de plus grande proximité avec lui.
Oui.
Presque d'intimité.
Dans tous les sens, dans tous les sens du terme, du reste. C'était des moments de conflit aussi. De conflit, mais de grande tendresse aussi. Puis il y avait la nature aussi. C'est-à-dire, mon père aimait beaucoup la nature et... Je me souviens de beaucoup de choses qu'il m'a dites comme ça. Et non, plus tard la nuit, par exemple. Ses endroits favoris, par exemple. D'une région qu'il connaissait par cœur. Il a parcouru quasiment tous les jours, intégralement. Oui. C'était sur un rayon de...
Le jour et la nuit.
De 15 kilomètres, ce qui est beaucoup. Oui, le jour et la nuit, beaucoup la nuit. Mon père vivait énormément la nuit. Donc nous avons été enfants, on vivait avec aussi un peu avec ce rythme-là. Le téléphone la nuit, le mon père qui se réveille, qui s'en va, le bruit de la voiture ou de la moto pendant la guerre en bas, les retours de mon père, c'est tout. Ce sont le cabinet médical du jeudi et du dimanche, en bas, juste à l'étage au-dessous. Et puis toutes sortes d'autres choses. Le fait que parce que mon père, par exemple, le matin, mon père ne déjeunait. Il mangeait une soupe comme les paysans. Il mangeait une soupe tous les matins.
Parce qu'il fallait tenir le
coup. Il mangeait jamais de café. Il buvait jamais de café. Il se serait jamais beurré une tartine. C'était dérisoire pour lui. Il lui fallait une force. Et donc il mangeait une soupe très épaisse. Vous voyez, ça fait. Donc on le voit, c'est important aussi le repas de quelqu'un qui est toujours décalé. Donc ma mère attendait le soir très tard, quelquefois on attendait un petit peu, avec un peu de peur aussi, parce que un père qui est comme ça, irrégulier, dans ses...
C'est un peu inquiétant.
C'est inquiétant. C'est inquiétant.
Votre mère, née en Pologne, de parents français.
Oui, oui.
L'histoire, écrivez-vous, est née pour moi de la lumière de son visage, de son front et de ce que je vois de sa gorge remuée par l'émotion des mythes bibliques et historiques. L'histoire est née du dedans de ma mère et de la lumière de sa peau. C'est elle qui a
oui,
ce
sûr,
rôle
oui.
très important
sûr,
de, oui. d'abord, de la lecture. C'est elle qui vous fait la lecture à la oui. fois des, de la Bible.
Beaucoup la Bible.
C'est, de cette c'est Bible illustrée
le
pour les enfants voilà. dont vous parliez. Et donc, toutes ces histoires, celle d'Absalom, vous parliez au début, mmh. l'histoire de Joseph vendu par ses frères, qui vous hante,
oui.
Le meurtre d'Abel, le berceau de Moïse, le buisson ardent. Mais ce qui est très frappant dans le récit que vous faites, mmh. C'est que l'histoire sainte et l'histoire ancienne et l'histoire présente sont étroitement liés.
Oui.
C'est comme si les deux plans, la chronologie, les chronologies, venaient à se superposer. Et alors, par exemple, le récit de la tour de Babel est mis à côté de l'écho que vous entendez de quelques voix allemandes.
Oui.
Ou du patois que vous entendez, les patois oui, des paysans.
Ouais, ouais.
Et c'est comme ça que vous prenez conscience qu'il existe plusieurs langues.
Oui, oui. Avec la radio aussi.
Oui.
La radio, un petit peu plus tard, parce que la radio, on ne pouvait pas l'écouter comme ça. C'était... Mais c'est vrai, sur les vieux postes d'autrefois, à partir de 1944, disons, à partir de la Libération, on commence à entendre des voix autres, italiennes, anglaises, hollandaises, ou ça, voix russes. Donc c'est beau, c'est beaucoup l'écoute. Oui, c'est la radio.
C'est
la radio déjà. À la radio a une importance considérable à l'époque. Hein. Mm-hmm. Énorme. Même pour des petits-enfants, la radio est une chose totalement mystérieuse. Totalement mystérieuse. Quand on commence à lire, c'est quand on commence à lire que ça devient encore plus extraordinaire. Car on peut lire les stations sur l'écran qui est éclairé donc, par une lampe, quoi. Et on voit
ces noms de villes.
On voit Beromünster, Sotens, Hilversum, tout ça. C'est complètement fascinant. Pourtant, ce sont des noms de villes tout à fait ordinaires. Mais
et
sans parler de tout le reste, il y a des stations du monde entier. Mais qu'on ne fait que voir. Oui, on voit le nom. La tour de Babel, c'est beaucoup cet écran
de radio.
Cet écran de la radio.
Voilà. Éclairé la nuit.
Oui. C'est bien beaucoup de choses. Il y a aussi évidemment les tableaux, le tableau de Bruegel. Et puis l'idée, même sans ça, avant la radio, même l'idée même. Parce qu'un enfant peut très bien, moi en tout cas, avant d'avoir une image, je pouvais avoir une idée aussi, sans image, de la tour de Babel, de ce phénomène étrange, de cette construction, de tous ces gens qui travaillent, qui parlent des langues différentes. C'était un espèce de principe comme ça. Vous voyez je pense qu'il y a des idées. Tout ne vient pas sous forme d'image ou même de sensation chez l'enfant. Il y a déjà des. Peut-être pas des concepts, mais. Vous voyez des inquiétudes. La tour de Babel, c'est une énigme aussi.
Encore une.
C'est une énigme parce que ça reste une énigme parce que le texte est complètement énigmatique en plus.
Votre Tout. Mère vous lit aussi la légende dorée et les héros, les saints.
Les saints, oui.
Et en même temps, encore une fois, l'histoire actuelle, l'histoire du présent qui fait irruption dans votre enfance à travers ses oncles. Ces tantes, très jeunes,
très
pour
jeune,
la plupart,
héroïque, oui.
qui sont engagées dans la résistance, qui sont arrêtées, qui sont faits prisonniers, qui sont parfois blessés, déportés pour certains.
Et anéantis aussi pour certains.
Et morts, comme
fait, oui.
votre
oui.
oncle
oui.
Hubert, à qui vous dédierez bien des années plus tard, tombeau pour 500 000 soldats, morts à l'âge de 23 ans.
Je trouve. Et même s'il aurait certainement refusé ce livre, certainement, mais c'est pas sûr. Mais ben, tant pis.
Vous évoquez un souvenir où vous êtes tout jeune, tout petit enfant, et il vous soulève de terre.
Tout petit bébé, encore. Oui.
Et vous dites, vous écrivez, c'est l'histoire, une divinité déjà qui me prend dans ses bras, qui me parle.
Oui. Oui, tout à fait. C'était pas. Dans la mesure où c'est aussi un souvenir très ancien, donc assez. C'est un souvenir de lumière, c'est de lumière et d'ombre.
Il était d'une très grande beauté aussi.
Mais, oui, très, très beau, je crois. Oui, très beau. Comme tous ces. Toute cette famille, enfin, c'est la famille de ma mère. Et c'était une sorte de frère aîné pour nous, parce que c'était ma mère qui l'avait complètement élevé, parce que leur mère était morte après avoir donné naissance. Donc ma mère l'a élevé avec mon grand-père et puis un autre de mes oncles, mes grands-oncles et mes grandes-tantes. Donc c'est un enfant qui a été élevé par tout le monde, au fond, et qui était aimé par tout le monde. Et c'est le premier qui est parti. Dans des conditions évidemment horribles, bien entendu. Mais et donc je l'ai connu. Je l'ai vu. Du reste, les premières photos que j'ai de moi, ou de mon frère, de moi, c'est des photos qu'il a prises, lui, avant d'être arrêté, en 42. Et c'est des photos où il nous photographie en train d'écouter l'histoire sainte. Donc l'écriture sainte. Donc, raconter vraiment ma mère. Donc, c'est tout de même intéressant. C'est beau.
Alors,
c'est beau et c'est extrêmement poignant. Ouais.
Enfance où les récits, les nouvelles de la guerre entendues à la TSF, les lectures comptent énormément. Et puis, les images aussi, celles que vous voyez dans les gravures, par exemple, des manuels d'école, quand vous commencerez l'école élémentaire, les illustrations de la Bible, et puis des photos, et en particulier deux livres parus juste après la guerre, à Paris sous la botte des nazis, et puis Les témoins qui se firent égorger, édités par la Défense de la France et par deux de
par
vos oncles, en 1946. Ce sont des livres de photos.
Et de texte aussi, oui.
Oui, et photos de la résistance, des camps de la mort, que votre mère cachait, en particulier les témoins qui se firent égorger.
Thomas le second, parce que les deux livres sont très très différents.
Oui.
Le premier, par exemple, Bois des nazis, il y avait aussi d'autres livres. Il y a eu énormément de livres juste à la fin de l'occupation, qui étaient presque prêts même, qui étaient sous presse, presque avant la libération. Et il y a des images donc de l'insurrection de Paris, j'ai regardé tout ça, bien entendu, très tôt, en 44, évidemment, dont du reste une photo extraordinaire dans Paris sur le bois des nazis. On voit cette danseuse nue, enfin demi-nue, je ne sais pas de quel cabaret de Champs-Élysées, qui danse devant des officiers nazis que nous avons repris pour la couverture du folio de Coma, et qui est une magnifique photo qui nous a tous troublés, mes frères et sœurs et moi, complètement. Mais évidemment, le livre qui nous a le plus troublés, c'est complètement troublé. Ça, c'est un tout autre ordre, c'est les témoins qui se firent égorger. C'est une reprise de la phrase de Pascal. Je ne crois que les témoins qui se feraient égorger. Voilà. Donc mon oncle a repris cette phrase, et qui est un des tout premiers, peut-être même un des deux ou trois premiers livres de photos et de textes où les camps sont là. Dans toute leur horreur, dans toute leur, avec des distinctions, déjà, comme je l'ai dit, vous voyez, il y a Auschwitz, il y a tout, la plupart des camps, enfin tout. Et il y a des chiffres un peu très approximatifs, des chiffres quelquefois excessifs, mais c'est l'époque, parce qu'on découvre. Il a été composé fin 45, et évidemment, les chiffres étaient encore très. Les chiffres étaient incertains à cette époque-là, bien entendu. Il fallait compter, On n'avait pas, ils m'ont manqué les archives, on n'avait pas. Il y avait plus de choses à faire pour sauver les gens qui. Les gens fallait rescaper, oui. Et donc, il y a des. Mais c'est intéressant parce que la plupart des grands camps sont là, avec leur spécialité, si je peux dire, et puis leur population.
Alors, vous découvrez ce livre que votre mère cachait.
Oui, parce que
vous regardez ces images, il se trouve que vous. Vous découvrez ces images au moment même où vous lisez un album en couleur sur les aventures, les exploits.
Sur les guerres napoléoniennes.
Et vous êtes saisi, vous dites, vous écrivez, je vois qu'il y a un avant en couleur, celui de la guerre et de la tragédie naturelle d'autrefois, et un après, à jamais sans couleur, la teinte à l'image divine de l'homme. Ce corps nu, écartelé, sur une potence au sol, poignet lié au bois. Et votre mère vous trouve errant, sans force.
Oui, tous du reste, parce qu'on l'a lu, on l'a découvert un petit peu tous ensemble.
Tous les frères et sœurs.
Les frères et sœurs, oui, on était complètement interdits. Enfin, on était sans voix, sans force. C'est ce que ça devrait provoquer, du reste, aujourd'hui encore. Parce que les images étaient... Aujourd'hui, ces images se sont banalisées, hélas, d'une certaine façon. Je trouve qu'on en fait un usage beaucoup trop fréquent, je trouve, personnellement, et dans des conditions très contestables, souvent, oui. Même dans la publicité, quelquefois. Ce qui est un comble. À l'époque, il n'y a quasiment rien. Donc on est donc confronté à ces corps, à ces tas de corps, vous voyez, auprès desquels même les images reconstituées des pyramides de têtes des Mongols, des Gengis Khan, sont, je dirais, presque dérisoires pour nous aujourd'hui. Voilà, et c'est une chose à quoi on est bien obligé de croire. En même temps, c'est un anéantissement. On est anéanti. Je crois que c'était même, je crois, le but. C'était le but, c'était d'anéantir non seulement ceux qui étaient dans les camps, mais d'anéantir l'image, moi je dis divine, parce qu'à cette époque-là, je suis extrêmement croyant, bien entendu, l'image divine de l'homme.
On sent au fil des pages de ce récit que naît en vous cette hantise qui ne vous a jamais plus quitté, je crois, et qui reviendra dans toute votre œuvre. Cette hantise de l'histoire, hantise aussi du martyr, de l'asservissement, de l'esclavage, et surtout de ce que vous disiez à l'instant, c'est de l'atteinte à l'image divine de l'homme. Et d'ailleurs, Formation se clôt sur ces vers de Hölderlin.
Oui. Que j'ai voulu mettre en allemand.
Que vous avez mis en allemand.
Laissé en allemand, oui.
Et qui en français donne l'âme qui dans la vie de son droit divin fut privée. Et vous coupez le deuxième vers.
C'est un vers magnifique.
Vous aviez demandé à votre mère de vous lire ces vers
en allemand. Oui, ça c'était déjà beaucoup plus tard, bien sûr. Dans l'adolescence, oui. Mais j'ai découvert Hölderlin, je pense à 15 ans, peut-être, je ne sais pas très bien. Mais en bilingue, dans une édition bilingue. Et ma mère, je pense, ne connaissait pas très bien Hölderlin, mais la poésie allemande en général. Et comme elle parlait un peu l'allemand, je lui ai demandé de... Mais ça ne pouvait pas passer. C'était impossible chez ma mère.
Elle ne pouvait parler l'allemand que chanter.
Il y a eu chez ma mère une... Oui, et encore quand c'était des chanteurs non-allemands. Les leaders de Schumann et de Schubert, par exemple, ce n'était possible que par des chanteurs norvégiens ou hongrois ou français à la rigueur, même en allemand. Mais il ne fallait pas que ça soit des Allemands. Chez ma mère, il y avait une... J'ai écrit dans un autre texte qu'un jour, comme ça, dans les années 50, comme ça, inopinément, la voix d'Hitler a été reproduite dans une émission de radio, on écoutait, et elle s'est évanouie. La terreur. Mais moi, je trouve que c'est bien. Je trouve que ces images, cette voix, ne peuvent que provoquer ce pourquoi elles étaient faites, si je peux dire, pour anéantir l'autre. Vraiment l'anéantir. Enfin, moi, je ne regarde jamais la moindre image de cette période, des camps, bien entendu, la moindre phrase, le moindre... Vous voyez, la moindre... que j'ai lu 36 fois, ça me détruit. Ça me détruit. Qu'est-ce que vous voulez opposer à une chose pareille? vous pouvez pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous dites comme le pape, plus jamais ça. À quoi ça sert de dire ça? C'est vraiment fait pour anéantir, si vous voulez. Donc il faut chaque fois se relever. Il faut se relever, bien sûr. Mais ça anéantit. Moi, je ne peux pas vivre comme normalement, dans la journée, si j'ai lu quelque chose de ce genre. Ou même si dans ma mémoire revient un épisode, par exemple, d'extermination en Ukraine, à ciel ouvert, des choses comme ça. Pour moi, c'est encore là, c'est toujours là, même si je ne l'ai pas vécu, peu importe. Je le revis, je suis même à la fois la victime et je suis le bourreau aussi. C'est le bourreau qui fait question. Comment les gens peuvent prendre des barres de fer, tuer toute une famille. C'est effroyable. Comment? Quel est le processus? Vous voyez, il faut réfléchir. Quel est le processus qui amène à ça? Mais avant de réfléchir au processus, vous êtes anéanti par la chose. Mm-hmm. Et c'est la réflexion. C'est la raison. C'est la réflexion sur ce processus qui vous rend à la vie, en quelque sorte.
Et est-ce que vous avez le sentiment que quelque chose de cette conscience et de cet anéantissement est né justement dans votre enfance par à la fois les récits que vous entendiez, des horreurs, des crimes, par le témoignage de vos proches qui étaient arrêtés, emprisonnés, déportés, tués, et par ces images que vous avez vues. Est-ce que vous aviez le sentiment que quelque chose naissait de l'ordre d'une conscience et d'une connaissance?
Oui, c'est vrai, oui. Mais moi, je peux vous dire que maintenant, à l'âge que j'ai, je suis encore plus touché et anéanti par ces images, ou ces récits, que je ne pouvais l'être quand j'étais adolescent, par exemple. Oui. Mais par cet événement-là, je dis bien, les autres sont terrifiants de l'histoire, bien entendu. Mais celui-là a un caractère tellement radical sur tout un continent, la traque comme ça, la recherche, c'est quelque chose d'effarant, quoi, d'absolument unique dans l'histoire, unique sur tout un continent quand même.
Si on revient, Pierre Guillotat, à votre récit de formation, il y a toute une géographie aussi, qui est la géographie de l'enfance, et qui correspond d'ailleurs en grande partie à celle de l'activité professionnelle de votre père médecin. Les hameaux, les bourgs, il y a tout un paragraphe qui n'est composé que des noms de certains lieux dits ou villages, les fermes, la campagne, cette France rurale, pauvre, austère, parce que c'était la guerre, mais l'après-guerre ne sera pas beaucoup aussi, mieux. Et puis il y a la nature avec à la fois le règne animal, les lézards que vous attrapez parce que vous sentez la vie, les pulsations de la vie dans votre main, les insectes que vous regardez.
Parce qu'un enfant cherche tout le temps à être en contact avec la vie. Les oiseaux, les insectes, les lézards, tout, les mains des gens. Un enfant était absolument en perpétuel besoin de sentir la vie, alors que lui est une boule de vie incroyable. Et je pense qu'on a plus besoin à cette époque-là de saisir la vie dans sa main, je pense.
Et puis il y a des jeux qui sont des épreuves que vous, auxquelles vous vous soumettez et auxquelles vous soumettez aussi vos camarades.
Même que nos crayons, oui.
Oui. J'en cite quelques-uns. Oui. Traversée des ronces, approche du trou de la vipère, franchissement bouche ouverte d'un essaim de moucherons, se rouler dans un carré de jeunes orties, des jeux cruels comme dans beaucoup d'enfants.
Bien sûr, oui.
Mais qui vous donne une très mauvaise conscience quand vous soumettez les autres à ces jeux, en particulier un garçon rescapé des bombardements, réfugié chez vous, que vous aviez la tâche, le devoir de protéger.
C'était en 1944.
Et à qui vous...
Très longtemps, donc, oui. Oui, et auquel on, au fond, on inflige la même épreuve, comme s'il était comme nous, si je peux dire. Mmh. Donc, il y a toujours relativement au calme quand même, dans la campagne. Mmh. Voilà.
Il y a dans cette approche, cette proximité des camarades de jeu, des compagnons de jeu, mmh. Il y a des enfants de paysans, des enfants d'ouvriers,
bien sûr, hein.
Des corps mmh. qui sont différents entre eux, différents du ah, vôtre. Oui. Mmh. Et vous dites que vous avez cette volonté douloureuse d'avoir le corps de ceux que notre père met au monde. Mmh. Le refus oui. D'une certaine inégalité sociale corporelle.
Ah oui, c'est même le refus de l'inégalité sociale.
Oui, mais qui passe là par le corps, par la découverte qu'il y a des corps voilà. différents de vôtre.
Des corps différents, qui sont plus...
Qui ont d'autres odeurs, par exemple.
Oui, et puis qui sont aussi très liés au travail, déjà. Très liés au travail, parce que... Enfin, en tout cas, mon frère et moi, je ne sais pas les autres, mais nous avons éprouvé très tôt, c'est que, très tôt, pendant l'adolescence déjà, c'était que moi, on ne voulait pas de ce privilège, disons, des études, si je peux dire. Moi, du reste, j'en ai fait très peu, finalement, parce que je ne suis pas allé en faculté, pas du tout. Et voilà. Il fallait qu'on puisse travailler tout de suite. Alors on peut trouver toutes sortes de raisons à ce genre de choses. C'est peut-être le désir d'avoir un usage du corps
plus libre,
mmh. et d'un usage plus complet aussi, et même tout à fait complet, avec la sexualité comprise. Mmh. La sexualité, hétérosexuelle bien entendu, et la sexualité... presque conjugal déjà, oui. Mm. Il y avait des jeunes paysans qui se mariaient très très tôt, oui. qui se mariaient tôt. Des jeunes ouvriers qui se mariaient très tôt, à 18 ans, etc. Et nous, on voulait déjà être dans la vie, comme tous les enfants. Les enfants ne veulent pas rester enfants, c'est évident.
Pressés,
bien sûr.
Mm. Mais
pressés de travailler,
oui.
c'est-à-dire de gagner son argent, même, si je puis dire, gagner sa vie. Pourtant, on n'était pas tellement... Mon père et ma mère étaient relativement... Ils n'étaient pas aisés. Et donc, il n'y avait pas... On était très aimés, mais on n'était pas particulièrement choyés matériellement, si vous voulez. Mm-hmm. Mais rien que ça, c'était trop. C'était trop. Mais on avait une sensibilité que mon frère et moi, nous avons gardée, du reste.
Je veux que mon corps reste sauvage. Oui, sans ascendance reconnaissable.
Ça, c'est encore autre chose.
Mais,
c'est un autre, oui, mais un autre niveau.
Oui, mais le refus de votre classe sociale, disons, de votre... Oui. S'accompagne
ça va jusqu'au refus de l'ascendance.
Oui. De l'ascendance, de la famille.
Ben, vous savez, on nous dit, le
désir d'être un autre.
Un autre, oui. Ben, le désir, à l'époque, c'était d'être fils de Dieu directement, si vous voulez. C'est une chose qu'on a oubliée aujourd'hui, que même les prêtres ont oubliée, c'est que... On enseignait aux enfants, catholiques ou même protestants, même d'autres, je pense, qu'on n'était pas vraiment les enfants de nos parents, qu'on était les fils de Dieu, que Dieu avait un projet sur chaque enfant, sur chaque vie qu'il créait, avec l'aide des êtres humains, avec l'aide des parents, avec l'aide des géniteurs, si vous voulez. Donc cette idée tout de même est très forte, si vous voulez. Et en plus, dans cette petite école, à Notre-Dame de Joubert, elle était extrêmement puissante, puisque les parents n'étaient plus là. Mmh. Et on était en contact, et effectivement, le seul père, la seule ascendance, c'était Dieu le Père. Mmh.
Cette école à laquelle vous faites allusion, c'est l'internat, votre première expérience dans un internat
oui.
à Joubert, qui est un mot isolé dans la montagne. Mmh. Trois ans de votre vie, entre 9 ouais. et 12 ans. Oui. Une école diocésaine qui prépare, entre autres, au petit séminaire de
oui.
Lyon.
Oui.
Et beaucoup des pensionnaires sont promis à la prêtrise.
Oui.
Et c'était la première séparation avec votre famille, une expérience fondatrice.
Ah oui, oui.
Et à propos de cette séparation et de cette expérience, vous écrivez « Le secret dont on fait sa vie, l'œuvre de sa vie se prépare, se mûrit ici, dans la communauté brutale, bruyante, tireuse de secrets, mieux que dans le tendre et murmurant silence de la famille. »
Bien sûr. Oui, parce que dans la famille, bien sûr, c'est, C'est une très grande poésie, et beaucoup de choses passent aussi dans cette vie familiale. Mais on sent bien que c'est réduit, que c'est une braise, si je peux dire, un foyer réduit quand même, et que c'est naturel et c'est pas naturel en même temps, vous voyez. Et qu'on a, moi j'ai eu très tôt, mon frère aussi, je crois, ce frère-là, dont je suis resté très proche toujours, je ne sais pas pour quelle raison, on ressentait cette chaleur, ce cercle, enfin ce petit foyer irradiant, comme insuffisant, si vous voulez. Ça peut paraître un petit peu présomptueux de le dire, parce que tant d'enfants étaient à l'époque, ou sont toujours privés de ce genre de feu-là. Mais voilà, un enfant est un enfant. Moi, je vis ma vie, je ne peux pas. Je vis déjà suffisamment celle des autres, pas l'imagination. Vous voyez, donc c'est quand même la mienne. Et puis parce qu'on éprouvait certainement le besoin de plus grands espaces, et que on a eu très tôt ce sentiment de la solidarité humaine. C'est très sensible dans ce livre, par exemple, nous sommes des êtres uniques, bien sûr, parce qu'on nous l'apprend, c'est irremplaçable, unique, très bien. Mais en même temps, nous savons que il y a plein d'autres, il y en a plein d'autres, des millions, des milliards dans le monde. Et au fond, l'universel est tout aussi naturel que le familial, si vous voulez. Ce réseau-là, cette chose-là, ce principe familial, ce principe de descendance, d'ascendance, etc., il est très juste, il est inévitable pour l'instant, encore. Il est inévitable, il est là, il peut être beau, etc. Mais il y a aussi d'autres liens qui nous lient. On ressent très tôt tout de même la solidarité, dans certaines familles en tout cas, certaines familles, on apprend aussi la solidarité avec le monde entier, avec le monde tout simplement.
Alors pendant ce séjour,
c'est vers cette solidarité-là et à un moment donné, évidemment, l'adolescence, cette solidarité universelle, évidemment, entre en conflit, ce sentiment très fort, entre en conflit avec cette simple solidarité familiale qui devient extrêmement, extrêmement odieuse, finalement, même si elle est peuplée d'êtres bons et animés des meilleures intentions.
Quelqu'un qui compte beaucoup pendant ces années passées à Joubert, c'est le père Vallas, dont vous dites qu'il était le frère du premier biographe de Claude Debussy. Et cet homme, ce prêtre, voit votre cerveau. Je cite de mémoire, mais je crois que vous dites vous écrivez quelque chose comme ça dans votre livre.
Ben oui, mais c'est lié à ce que je viens de vous dire, du reste. C'est que, en même temps que ce sentiment que l'homme est solidaire, c'est une découverte, ça. Comme on dit maintenant, c'est pas évident. Y a des pages magnifiques de Benjamin Constant, du reste, là-dessus, sur la naissance de la politique, par le sentiment de solidarité humaine, dans les temps préhistoriques, par exemple. C'est une chose qu'il faut analyser. Est-ce que c'est naturel? Vous avez des quantités de gens qui n'ont pas ce sentiment-là. Provisoirement, j'espère, bien sûr. Mais donc, c'est lié avec ça aussi. C'est que quelqu'un, enfin, voit ce qui vous différencie de votre famille. À savoir, d'une certaine façon, le cerveau, enfin la pensée. Je parlais tout à l'heure de ces embryons de concepts, vous voyez. Et cet homme a vu, cet homme qui était âgé à l'époque, il avait 70 ans, il l'a vu presque à l'œil nu, ce cerveau. Comme on peut le voir, du reste, c'est beau, chez des enfants qui s'expriment. On peut voir assez loin quand même, sans être obligé de doter la calotte crânienne. On voit avec les yeux, avec le langage, le tremblement de la voix, on voit quand même beaucoup de choses déjà. Mais c'est lié avec cette notion de solidarité, de désolidarisation familial, vous voyez, quelqu'un qui vient là et qui... Je l'ai senti, lui, assez rapidement, au bout de quelques mois, donc entre 9 et 10, 10 ans, je l'ai senti comme une force opposée à la force paternelle et maternelle. Paternelle, surtout. Vous voyez, je l'ai ressenti comme ça.
Vous allez quitter cet établissement, ce pensionnat, et vous serez, je crois bien, à Saint-Étienne, chez les pères maristes.
Non, chez les jésuites.
Chez les jésuites d'abord, année, oui, et ensuite chez les pères maristes à Saint-Chamond.
Saint-Chamond, oui.
Et un adolescent qui a 14 ans à l'époque décide d'écrire.
Oui.
Décision qui ressemble à une illumination.
Oui, vraiment, oui.
Puisque tout à fait, c'est la lecture du bateau ivre dans une salle d'études qui est le déclencheur de...
Ah oui, c'est vraiment, vraiment une illumination. Parce que je me souviens que quelques temps après, je suis retourné chez moi pour les vacances. Et ma mère m'a dit que je n'étais plus le même. Quelque chose s'était produit. Voilà. C'est assez logique, avec un poème pareil. Aussi éloquent et aussi puissant. Ouais.
Je vois, je lis la première strophe du bateau ivre, et quittant mon costume et la scène, puisque vous étiez en train de jouer une doublure de chérubin dans Le mariage de Figaro, et quittant mon costume et la scène, j'emporte le volume en salle d'études où je lis le poème dans son entier, mon cœur bat de plus en plus vite à l'intérieur, tout illuminé de ma poitrine, je sors et je fais trois fois le tour de l'enceinte du collège en respirant à grands traits. Je passe sous le préau, devant les latrines. Désormais, je ne me cacherai plus. J'ai en moi une force, un flambeau, un plateau d'orateur, un marbre de théâtre. Les portes du ciel ne prévaudront pas contre elles. Je plaque mes mains sur mes oreilles pour ne plus entendre le chant des oiseaux dans le soleil qui décline. La poésie est affaire de pensée. Alors, vous qui réfusiez votre ascendance familiale, sociale, est-ce que vous reconnaissez une ascendance poétique, artistique? Est-ce que du côté d'une communauté, qui serait une communauté à la fois de pensée et de poésie,
oui, bien sûr, oui.
Et quelle serait cette généalogie?
Mais vous savez, je n'ai jamais refusé mon ascendance, disons. Bon, c'est impossible de le faire, à faire. Par moments, je l'ai beaucoup refusé, au moment où j'étais vraiment en conflit avec mon père principalement. Mais je n'ai jamais refusé. J'ai même été très... nous étions très fiers de cette ascendance, de toute façon. Il y avait de quoi, du reste. C'était intéressant. Je me suis beaucoup intéressé. Je n'ai jamais rejeté les personnes, oui, jamais. Même quand je suis parti de chez moi, etc., j'étais absolument désespéré s'agissant de mon père. Je sais qu'il fallait que je le fasse. C'est contre un principe, ou contre des coutumes, contre des habitudes, etc. Mais ma famille m'a toujours beaucoup intéressé. Maintenant, après, on passe toujours toute sa vie par des phases. On peut s'apercevoir à un certain moment de sa vie, même de sa vie d'adulte, qu'on décidément on ressemble beaucoup à son père. Et là, quelquefois, ça passe un peu difficilement. Oui. Non pas que mon père est un être formidable, bien entendu. Vraiment merveilleux, extrêmement d'une générosité publique. Générosité, si je peux dire, oui, publique... citoyenne, comme on dit maintenant, extraordinaire, bien entendu. Mais quand vous voyez, quand vous redécouvrez que vous venez de quelqu'un d'autre, que vous n'êtes pas entièrement original, si vous voulez, c'est toujours un peu dur. Mais ça, c'est lié à l'idée de création. Moi, dès que j'ai commencé à écrire, j'ai voulu très vite faire œuvre de nouveau, si vous voulez, de nouveauté, assez rapidement. Au bout d'un an. C'est immédiat, ça. C'est pas forcément... c'est pas toujours comme ça que ça se passe. Et moi, ça a été absolument presque immédiat. Un an, oui, un an. Un an, j'ai voulu aller plus loin que ce que je croyais qu'il s'était fait. Voilà. Puis je découvrais que ça s'était déjà fait. Mais je l'avais pensé par moi-même. C'est très important aussi de penser les choses par soi-même. pas toujours avoir des livres pour vous expliquer. Il faut laisser faire la pensée en soi, quand même. Hein. C'est une chose qu'il faut susciter chez beaucoup, du reste.
Vous dites que, que vous aviez ce désir ancré très fortement de faire œuvre nouvelle.
De nouveau, voilà.
Du nouveau. Et en même temps, il vous est arrivé de dire que quand on dit que Pierre Guillotat invente une langue nouvelle, une langue qui n'existe pas, il vous arrive de dire que c'est mal connaître la langue française que dire une chose pareille, que vous creusez le relief d'une langue, mais qui est là avec ses antécédents, avec
son ascendance. Et même ses déviations aussi, ses origines étrangères, entre guillemets, si je peux dire. Beaucoup, bien sûr. Bien sûr, mais peut-être qu'aujourd'hui, là, cette langue est un petit peu... n'est pas assez reconnue, au sens où on reconnaît quelqu'un, si vous voulez. Elle est comme toujours, c'est pour la première fois de son histoire. Elle est un petit peu menacée. Moi, je ne suis pas aussi pessimiste que beaucoup d'autres, mais elle est quand même assez menacée, si vous voulez. Alors, les gens ne voient... Le problème, c'est qu'il y a toujours des grammairiens, des gens qui sont capables de voir ce que cette langue possède comme racine et comme figuration rhétorique. Mais ces gens-là sont des gens que le fond de l'œuvre heurte considérablement, si vous voulez.
Contrairement à ce qu'on dit, je n'invente pas une langue nouvelle. Les bons traducteurs savent bien à quelle profondeur cette langue est française. Et pourtant, quand j'ouvre les pages de vos livres, et je pense là en particulier à Prostitution, le livre, Progéniture, même visuellement, on a la sensation d'être devant un autre alphabet, d'être devant, je ne sais pas, un alphabet cunéiforme, sumérien, je ne sais pas. Disparition de certaines voyelles, en particulier le E muet, apostrophe.
Et muette, oui.
Cédille, modification graphique, mots qui sont rongés comme des moignons de mots, accélération, décélération, qui sont portés par ces contractions et ces distensions. Un alphabet morse.
J'ai fait du morse quand j'étais en Algérie. ce qui surprend, c'est qu'il y a effectivement des multitudes de petites révolutions dans cette langue, si vous voulez, qui sont évidemment juxtaposées, qui commencent à être expliquées, hein, par exemple, par la personne qui a fait cette biographie, qui est sortie il y a quelques années. Catherine Brun, qui a fait un très remarquable livre, à la fois à travers biographie et à travers d'études de l'œuvre, mais tout ça va se poursuivre. Et moi, du reste, il faut que je m'y mette aussi d'une certaine façon. J'ai toujours voulu le faire, mais pour le prochain texte, je le ferai. Une longue préface ou postface pour expliquer. Tout est nécessaire dans ce que dans ces élisions, dans ces transformations. C'est pas du tout le hasard
ou le jeu
phonétique pur ou tout ça. Absolument pas. C'est pas du lettrisme du tout. C'est totalement opposé au lettrisme et à d'autres choses qui s'en rapprochent. Pas du tout. Absolument pas.
Alors, il nous reste évidemment très peu de temps alors qu'on aborde des continents entiers qui demanderaient beaucoup, beaucoup d'heures. Mais d'où naît chez vous ce besoin de transformer la langue maternelle, d'intervenir physiquement en elle, ce besoin de faire du texte une production organique du corps, une sorte d'expectoration, je ne sais pas comment dire.
Oui.
Vous dites, je travaille avec un paquet de voix dans la gorge. Voilà.
Mais
ce besoin de transformer physiquement la langue maternelle.
Oui, disons, il faut rendre à la langue ce qu'il me semble qu'elle a perdu, moi, depuis pas mal de temps, la langue française en tout cas, et même les autres, c'est-à-dire son origine vocale, quand même. Origine vocale. Les choses étaient très prononcées autrefois. Beaucoup plus. Quand il y avait peu de manuscrits avant l'imprimerie, Il faut pas oublier ça, les choses étaient lues, tout était lu. Et les gens, les poètes, les prosateurs se permettaient des audaces incroyables aussi, vous savez.
Je sais que vous n'allez pas être très content, mais
non.
J'aimerais terminer cette émission avec une lecture que vous avez faite, je crois que c'était en 2000.
En 2000, oui, pour la réouverture de Beaubourg.
Voilà, ouais. De Progéniture, c'est le début de Progéniture. Mmh.
J'irais boule, l'orbite empoussiérée, ta poitrine tremblée, le comptoir caisse, ta mâchoire hack, mes cheveux chauds. D'eau, l'or, bordel, banlieue, France, deux hanchiers, gâte et son, un kilo chantant, cac banquet céleste, t'ca ta face mâchurée, t'cher onira, l'orlant tueur en refoufi les salames dans sa taille. Le mouchia Satan rentrait s'assoupir dedans tes narines. Père ses gardes, calilo, brûler ses restes vivants, dessus ses goulots éclatés, mâcherie, sa joue rose, l'oreiller brodé d'or, quelle poubelle fourchée mon aîné d'avant mes trois lits debout, feu, poussière, grincement de dents de lame, froissement de feuillets saints, combien de litres de lait mes songes nous portaient. Sac, boyaux, marmite vide, la sécher, sortir de cabane de ma mère repudiée, de leur fricot de nuit, ses coutumiers, le repâcher dans sa bouche, cracher dans ma bouche, la bouite menée au pont, à la table d'embauche, notre délice de mes entrailles, son rouge aux hommes, mon front, 77 refus d'embauche, le dniar, le propriétaire des charniers, vert d'entre ses orteils, masque l'oreille. Les dniars couillent, notre dniar embauché, leur trouver le dniar tronga, passe tes testicules, les acheminées vivantes, tes foyers.
C'était le début de Progéniture. Je crois que vous êtes bouché. Je crois que vous êtes bouché les oreilles.
J'ai l'impression que je m'écoute. J'ai l'impression que j'écoute mon père. Il me semble que j'ai la voix de mon père, c'est amusant. Retour.
Depuis donc de Progéniture, lu par vous, Pierre Guillotin. Merci, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Formation, c'est aux éditions Gallimard. C'est une langue tout autre que celle qu'on vient d'entendre, mais je crois que vous travaillez en ce moment à une sorte de suite de la langue de Progéniture.
Oui, enfin, une poursuite, une évolution. Hein. C'est un texte long, plus proche du théâtre, disons, dont le titre provisoire est Labyrinthe. Et je l'écris vraiment pour que ce soit joué. Et il y a un grand projet extrêmement intéressant et qui est en train de se profiler pour les 2 ans à venir, je pense, de mise au théâtre. Donc.
De voix.
Hein?
De voix.
De voix, oui.
Merci, merci encore. C'était Affinité élective, une émission de Francesca Isidori, à la technique Jean-Michel Bernot, réalisation Brigitte Aléo, une émission que vous pouvez écouter ou réécouter sur le site franceculture.com. Merci à tous.